Donc, on va continuer avec l'intérêt du génotypage, mais là, on change complètement de cadre. On a beaucoup abordé la prévention et maintenant, on va passer au contexte des immunisations connues. Donc, c'est un topo conjoint obstétrico-biologique avec Cécile. Donc, des rappels, mais vraiment, je vais passer très vite. Vous savez, pour le suivi des femmes avec une allonisation materno-fœtale, donc d'abord, il faut identifier ces femmes. Donc, on leur fait des RAE au premier trimestre. On ne devrait plus avoir à l'heure actuelle en France une femme enceinte qui n'a pas de RAE au premier trimestre. Malheureusement, ça arrive encore. Si la RAE est positive, bien évidemment, on commence par identifier l'anticorps en cause et déterminer si on est dans une situation où on va avoir un risque de maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né. On va tout de suite doser et titrer l'anticorps à risque d'anémie fœtale, donc le RH1, lequel, le RH4 et le RH3, mettre en place la surveillance biologique ad hoc dont on a déjà parlé, donc un dosage pondéral toutes les 2 à 4 semaines en fonction du type, lequel on titre une fois par mois. Et on a déjà commencé à voir plus tôt dans la matinée le seuil de déclenchement d'une surveillance échographique en fonction du type d'anticorps. On va mettre en place, dès qu'on aura franchi ce seuil, une surveillance échographique hebdomadaire par mesure du pic systolique de vélocité de l'artère cérébrale moyenne et devant une ascension des vitesses cérébrales au-dessus d'1,5 multiple de la médiane, comme ça a été décrit par l'équipe de Marie en 2000, on suspectera une anémie fœtale et éventuellement on prendra en charge cette anémie avec la réalisation de transfusions fœtales. Donc, l'idée est de se dire que chez une femme dont on est certain qu'il y a une alloimmunisation, enfin en tout cas qu'il y a des RAI positives en début de grossesse, vous voyez, cette surveillance, elle est lourde, c'est biologiquement et échographiquement contraignant, et donc de savoir s'il y a vraiment lieu de mettre en place cette surveillance, seulement s'il y a vraiment une incompatibilité entre la mère et le fœtus. Donc la question est de savoir quand est-ce qu'on va faire un génotypage dans ce cas-là. Donc, il y a un logigramme qui a été mis en place au CNRHP. Donc, on a la RAI positive au premier trimestre. On identifie le type d'anticorps. On va pouvoir réaliser un génotypage donc, dans le cadre du RESUS D du RH1 dès 12 semaines. Pour les autres génotypages qui ont été développés au CNRHP, donc le 3, 4 et lequel, on préconise plutôt un prélèvement vers 13 semaines. Si le prélèvement est négatif, contrôlé une deuxième fois, à ce moment-là, on lève toute surveillance, on sait un suivi strictement conventionnel de la grossesse, si ce n'est qu'on considère que ces femmes ont quand même un système immunitaire activé et qu'elles sont plus à risque de s'immuniser dans d'autres groupes. Et donc, on fera quand même une surveillance un peu plus rapprochée des RAI toutes les 6 semaines. En revanche, si le génotypage revient positif, bien évidemment, titrage dosage, on évalue le niveau de risque. Est-ce qu'on est inférieur au taux critique ? Oui, à ce moment-là, sur la surveillance échographique est standard, c'est une surveillance biologique exclusive. Et dès qu'on franchira le seuil à risque d'anémie fœtale, on mettra en place la surveillance qu'on a vue précédemment. Donc on va essayer d'illustrer un petit peu l'intérêt du génotypage dans ce contexte au travers de cas cliniques avec Cécile.
Alors le premier cas, donc il s'agit d'une patiente qui est RH1 négatif, deuxième part, à 8 semaines d'aménorrhée, à sa RAI du premier trimestre, donc elle a une RAI positive, on identifie un anti-D et on l'envoie pour quantification, donc un titrage faible, inférieur à 2 et un microtitrage à 12 nanogrammes. Après enquête, il s'avère que cette patiente n'a pas reçu d'injection de Rofilac, on suspecte donc une immunisation, donc la question est, y a-t-il un intérêt à réaliser un génotypage RHD fœtal à 12 semaines d'aménorrhée? Donc la réponse, bien sûr, c'était oui, parce qu'on ne peut pas savoir si cette immunisation s'est probablement produite suite à l'accouchement, hein, lors de la première grossesse. Donc il est tout à fait possible que lors de cette grossesse, on ait un fœtus négatif. Donc c'est vraiment important de faire ce génotypage. Donc question suivante, donc le même cas. Est-ce qu'il faut envisager un suivi des dosages toutes les 2 à 3 semaines à partir de 18 semaines d'aménorrhée Le génotypage RHD fœtal, pardon, il est trouvé ininterprétable. Donc, il est ininterprétable pourquoi ? Puisqu'il y a un variant RHD silencieux maternel qui va interférer dans la technique de génotypage. Donc, on ne pourra pas déterminer le génotypage fœtal. Donc, est-ce qu'on envisage quand même un suivi des dosages toutes les 2 à 3 semaines à partir de 18 semaines d'aménorrhée ? Donc oui, la réponse est oui, puisqu'on va se mettre dans la situation où effectivement on est face à une incompatibilité et où il y a un risque effectivement de réactivation au cours de la grossesse et donc il y a un risque d'atteinte du fœtus ou du nouveau-né. Alors, donc, est-ce qu'on se rend compte que les taux d'anticorps ils restent stables tout au long de la grossesse et très faibles, entre 12 et 24 nanogrammes. Donc, il n'y a pas du tout de surveillance échographique qui est mise en place. Et donc, la question qu'on se pose, c'est, bon, finalement, est-ce que, du coup, devant ces taux stables et qui restent très faibles, est-ce qu'on peut être sûr qu'il s'agit d'une grossesse RHD compatible ? Donc, bien sûr, la réponse, c'est non. Hein. Ce n'est pas parce que les taux restent stables qu'on est face à une grossesse compatible. Voilà, les taux d'anticorps augmentent dans à peu près la moitié des grossesses incompatibles, mais il y a quand même 50% de grossesses incompatibles qui ont des taux qui restent stables tout au long de la grossesse. Donc, faut...
Donc deuxième cas, Madame F, chez qui on met en évidence une RAI positive au sixième mois de grossesse. Il s'agit de sa deuxième grossesse et elle est de... Résus D négatif. L'identification de la RAI montre la présence d'un anti-D, mais on ne sait pas si elle a eu du rofilac avec un titre à 32 et le dosage pondéral qui trouve une concentration à 2 microgrammes par ml. Donc le génotypage RHD il est effectué en parallèle montre que le fœtus est RHD positif. On met en place un suivi biologique avec des dosages pondéraux tous les 15 jours. Est-ce qu'il faut associer un suivi échographique avec mesure des vélocimétries cérébrales à la recherche de signes d'anémie et se mettre en relation avec un CPDPN ?
Donc, je vais juste traduire la concentration qui est en microgrammes en unités internationales. Donc ça correspond du coup à un dosage qui est à 10 unités internationales ou encore à 500 unités CHP.
Eh bien oui, bien sûr, parce que le seuil de 1 microgramme, 250 unités CHP, 5 unités internationales, vous pouvez utiliser la valeur que vous voulez, c'est le seuil d'intervention pour mettre en place une recherche d'anémie fœtale. Bien vu. Du coup, on découvre a posteriori...
On découvre a posteriori, en recherchant un petit peu l'enquête chez la patiente, qu'on avait une RAI du premier trimestre dans un laboratoire privé qui était négative. Donc, si on avait eu cette information au préalable, y avait-il un intérêt à prescrire un génotypage RHD fœtal ? Alors en fait, la réponse, c'est non, parce qu'en fait, vu qu'on a une augmentation, enfin, on passe d'une RAI négative à une RAI positive, on a une positivation, en tout cas une augmentation importante du taux d'anticorps. Donc on est sûr qu'on est dans un contexte d'incompatibilité, parce qu'il n'y a aucune raison que le taux d'anticorps se mette à monter si la grossesse est compatible. Donc effectivement, si on avait su à l'avance que la RAI était négative, ça ne s'imposait pas de faire ce génotypage. Alors, du coup, on avait une RAI négative au premier trimestre. Là, on a un taux d'anticorps élevé. Est-ce qu'on peut conclure de manière certaine qu'il s'agit d'une primo-immunisation et que, du coup, il n'y a pas de risque pour l'enfant? Enfin, en tout cas, pas en anténatal. Donc là, effectivement, la réponse est non. Alors, pourquoi on va le voir? Donc, en fait, c'est des cas qui nous arrivent de temps en temps au laboratoire. Donc, quand on a ce genre de situation, quand on peut avoir accès en fait, au laboratoire où ont été réalisées les sérologies toxoplasmose quand les patients ne sont pas immunisés contre la toxoplasmose, on peut essayer de récupérer donc, des sérothèques et de faire des dosages rétrospectifs donc, des anticorps. Et effectivement, pour cette patiente, à 5 mois de grossesse, on avait une RAI qui était positive, avec un antidé à 0,5 microgrammes par millilitre. À 4 mois, on avait par contre une RAI qui était positive aussi, mais avec un antidé très faible, qui était uniquement à 12 nanogrammes, donc il y a vraiment une réactivation. Et à 2 mois, donc date de la RAI qui a été faite dans le laboratoire, on avait quand même un antidé à 3 nanogrammes, mais qu'on ne détectait qu'en technique enzymatique. Donc c'est le même cas qu'on vous a déjà exposé un petit peu pour le problématique pour les immunisations en type TC, c'est que en fait, on n'est pas la patiente, a priori, ce n'est pas une primo-immunisation, elle a dû s'immuniser suite à sa première grossesse, simplement les taux d'anticorps étaient en dessous du seuil de détection de la technique. Donc en fait, il y a un vrai risque pour le fœtus. Donc voilà, c'est fréquent aussi avec les antipes TC d'avoir ce genre de situation, comme on en a parlé ce matin.
Donc, Madame I, qui est une patiente qui a une immunisation déjà connue en DC pour sa précédente grossesse, elle avait un dosage pondéral à 1,2 microgramme à la grossesse d'avant. Là, elle a 12 semaines. Le premier génotypage est fait à 12, il est négatif probable, confirmé à 15 semaines sur un second prélèvement. Est-ce qu'on met en place une surveillance échographique pour cette grossesse? Donc je vois qu'il y a encore des sceptiques du génotypage. Quand même des chiffres de sensibilité qui sont assez excellents. Et en plus, là, on l'a vérifié, c'était dans les débats. Donc, en fait, cette femme, elle est immunisée, mais vous avez deux génotypages négatifs. Donc, on va quand même croire le labo. Le fœtus n'est donc pas de rhésus positif, il est négatif. Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de risque d'anémie fœtale. C'est un suivi conventionnel de grossesse. Il n'y a pas besoin de surveiller l'apparition d'une anémie fœtale. Mais bon, il y a encore des gens à convaincre, apparemment.
Alors, en revanche, au niveau de la surveillance biologique, est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place une surveillance biologique particulière avec donc, ces mêmes résultats pour cette patiente? Donc oui, la réponse est oui, mais ça va être une surveillance un peu différente de la surveillance classique. On va, comme on le voyait dans le logigramme, en fait, on continue quand même à faire des RAI un petit peu plus fréquentes. Donc on préconise à peu près toutes les 6 semaines parce que ces patientes ont plus de risques de développer de nouveaux anticorps d'ici la fin de la grossesse parce qu'elle a un système immunitaire qui est déjà stimulé vis-à-vis des antigènes érythrocytaires et d'autant plus vis-à-vis des antigènes érythrocytaires du conjoint si c'est le même conjoint à chaque grossesse.
Donc, RAI réalisée 6 semaines plus tard, on ne met pas en évidence de nouvel anticorps, mais on voit qu'il y a une réactivation dans le dosage de l'antidé plus C, avec un anticorps antidé et anti-C à 3 microgrammes et un titre à 64. On reprend les échantillons et on recontrôle un troisième prélèvement, et il n'y a pas d'erreur, le fœtus est recontrôlé négatif, parce que nous, on est sceptiques aussi parfois. Quelle est votre hypothèse ?
Alors, information supplémentaire, on a récupéré la carte de groupe du conjoint et on montre qu'il est de phénotype D+, grand C+, grand E-, petit C-, petite E+. Et quand on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse biologique, on va faire des titrages différentiels des différents anticorps et on va trouver un anti-D à titre de 32 et un anti-grand C à un titre de 64. Donc en fait, il s'agit d'un cas où finalement on a un fœtus D négatif, mais on a une réactivation d'une immunisation anti-grand C ou immunisation anti-G maternelle. Donc le G, juste pour rappel, c'est un antigène qui est commun à la protéine RHD et à la protéine RHCE, qui sont des protéines homologues. Et donc c'est commun quand la protéine RHCE exprime l'allèle qui correspond à l'antigène grand C. Donc à la RAI, l'anti-G il va donner une image d'anti-D et d'anti-C associés. Donc on ne va pas pouvoir au niveau de la RAI l'identifier, il faut faire des techniques un peu particulières. Et donc, si le fœtus est D-C+, ce qui est possible dans ce cas-là, puisque le conjoint il est grand C d'expression homozygote, donc il est C et G incompatible, même s'il est D compatible. Donc du coup, il y a un risque effectivement que l'immunisation anti-grand C et ou anti-grand G maternelle se réactive. Mais ce sont des anticorps qui sont quand même bien moins dangereux que l'anti-D. Ils sont essentiellement responsables d'atteinte hémolytique postnatale. Alors, quatrième cas, donc une patiente, cette fois, c'est une immunisation anti-petit C, donc une immunisation suite à une transfusion dans l'enfance. Un anti-petit C qui a un titre de 2, un dosage pondéral à 280 unités CHP. Donc, on a le phénotype du conjoint qui est donc D-, grand C-, grand E-, petit C+, petite E+. La question est, y a-t-il un intérêt à réaliser un génotypage RH4 fœtal ? Ah, c'est partagé. Donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on a un conjoint qui est homozygote au niveau de l'antigène petit C, donc il va forcément transmettre le petit C au fœtus. Donc, on est sûr qu'on est face à une grossesse incompatible. Et donc, si on pose la même question, cette fois, avec un conjoint qui est D+, grand C+, grand E-, petit C+, petite E+, du coup, vous allez tous répondre correctement, je pense, à la question. Donc là, oui, effectivement, il y a un intérêt puisque le conjoint est hétérozygote. Donc il y a quand même une chance sur deux d'avoir une grossesse qui soit compatible.
Du coup, toujours le même dossier. Le génotypage fœtal avec le papa, donc hétérozygote, hein, le deuxième papa, est retrouvé positif. On met en place un suivi biologique avec des dosages réguliers des anticorps. Est-ce que à 280 unités CHP, on met en place une surveillance du pic systolique de vélocité échographique ? Eh bien non, c'est le piège, parce que les seuils ne sont pas les mêmes en fonction des anticorps. Et donc, pour le petit C, on l'a vu ce matin, le seuil à partir duquel il y a un risque d'anémie fœtale, c'est 500 unités CHP. Donc là, pas encore. Je ne dis pas que ça ne viendra pas après, mais à ce stade, pas encore. Du coup, on suit la grossesse. Des dosages sont faits tous les 15 jours. Et à 34 semaines, on met en évidence une progression d'immunisation avec le titre qui est à 4 et le dosage pondéral qui est à 640 unités CHP. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Est-ce qu'on se rapproche d'un CPDP ? Et est-ce qu'on fait des échos ? Vous avez intérêt à avoir tous bon. Bon, ça va. Donc voilà, le seuil c'est 500 unités CHP. Et comme ça au moins vous en souviendrez.
Alors l'immunisation, donc on a vu qu'elle progressait, hein, puisque les taux d'anticorps augmentaient. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un intérêt à rapprocher les dosages à 1 par semaine, sachant qu'on est à 34 semaines d'aménorrhée. Donc, la réponse, on aurait tendance à conseiller quand même que oui. Pourquoi ? Parce que ce qui peut se passer, donc. Tu veux le faire du coup ?
Non, vas-y.
Alors, ce qui peut se passer, c'est que du coup, le dosage continue à augmenter et même fortement, et se met à flamber. À 35 semaines, le titre et le dosage augmentent. Donc, on va rapprocher du coup le fait de savoir qu'il y a une réactivation, ce dont on parlait ce matin, c'est qu'on va aussi être plus vigilant sur la surveillance clinique, on va rapprocher les mesures au niveau des rythmes et les vélocimétries, et puis on va aussi pouvoir décider du coup devant la moindre anomalie d'extraire le nouveau-né et donc pour éviter donc une maladie hémolytique sévère. Donc effectivement, on peut avoir des cas où on va avoir on peut avoir des cas très sévères à la naissance du fait d'une immunisation qui flambe en fin de grossesse. Donc vraiment attention à l'immunisation type TC et l'immunisation TDC, pareil, et les réactivations d'immunisation sont beaucoup plus fréquentes en fin de grossesse et parfois très, très importantes.
Et donc au même titre qu'on augmente la surveillance biologique, il n'est pas rare qu'on accroisse la surveillance échographique et des monitorings cardiaques fœtaux, bien évidemment, parce que on a des surprises de temps en temps et on tombe sur des anomalies du rythme extrêmement aiguës qui justifient une extraction en urgence. Dernier cas, Madame T, deuxième part, on met en évidence une anémisation antiquelle au premier trimestre des 7 semaines avec un titrage élevé à 128. Le premier génotypage est fait à 13 semaines et le résultat revient ininterprétable. Est-ce qu'on met en place une surveillance échographique précoce ? Donc oui, vous avez raison, lequel c'est tout à fait redoutable. Là, en plus, on a un titre extrêmement élevé et on peut avoir des anémies fœtales qui surviennent extrêmement précocement avec des transfusions fœtales, enfin des problèmes transfusionnels qu'il faut parfois commencer dès 16 semaines.
Alors c'est juste pour vous expliquer qu'effectivement, il y a un certain nombre de fois où on rend des génotypages HCL ininterprétables. Donc Nelly vous en a déjà parlé. La raison pour laquelle ça arrive, c'est qu'on a la différence entre les deux allèles, c'est une seule mutation. En plus, donc c'est un C qui donne un T. Donc on passe donc de 3 à 2 le liaison hydrogène. Donc sans rentrer dans les détails, du coup, s'il y a beaucoup d'ADN maternel, l'allèle HCL2 maternel, il peut s'amplifier faiblement avec les amorces qu'on a dessinées pour être spécifiques du HCL1. Donc on va à chaque fois quantifier la quantité d'ADN maternel en faisant une PCR-ABO dans chaque prélèvement et on pourra rendre un génotype HCL que si voilà, on est sûr qu'il n'y a pas d'ADN maternel qui interfère. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de génotypes HCL ininterprétables. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un risque aussi de faux positifs qui est un petit peu plus élevé qu'avec d'autres génotypages, pour ce génotypage plus particulièrement.
Alors du coup, le premier est un interprétable, le deuxième est positif probable et on le confirme à 20 semaines. Le titre reste stable à 128 sur les prélèvements pendant la grossesse et à 26 semaines, on met en évidence une augmentation des vélocimétries cérébrales avec des tout petits signes d'anémie et on réalise une PSF qui confirme l'anémie fœtale à 6 grammes, on réalise une transfusion. On du coup prélève le groupe du bébé au cordon à chaque fois.
Et donc là, on a un enfant qui est de groupe O, qui est donc qui a un RH, bon, peu importe, et on trouve en tout cas quel négatif. Le test direct à l'antiglobuline, le test de Coombs direct, est positif. Donc la question, c'est pensez-vous que du coup le fœtus est quel compatible qu'il est de quel compatible
c'est planté. Voilà, le génotypage s'est planté. Il y en a au moins 20%.
Donc c'est bien, vous avez répondu que vous ne pensez pas. Vous pensez donc que le fœtus est quand même câlin incompatible, donc c'est la bonne réponse, effectivement. Donc c'est le problème des phénotypes bloqués. Donc c'est dans les immunisations anti-câlin sévères, on peut observer donc ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, au niveau, quand on phénotype, le fœtus ou le nouveau-né va apparaître faussement de phénotype câlin négatif, car les anticorps maternels vont saturer les sites antigéniques sur les hématies fœtales et les anticorps contenus dans les réactifs de phénotypage ne peuvent plus se fixer. Alors les arguments qui vont quand même permettre de suspecter fortement la compatibilité câlin, c'est la clinique. Déjà, on a un taux d'hémoglobine à 6 grammes. Et puis surtout, le test direct à l'antiglobuline, le test de Coombs, qui est fortement positif. Donc le fait de réaliser un test d'élution, dans les lueurs, on va retrouver donc un anti-câlin. C'est ça qui va permettre de confirmer qu'il y a bien une incompatibilité. Et puis si on refait le phénotype câlin à distance des transfusions, on le trouvera positif. Donc ça finira de valider cette hypothèse. C'est un phénomène qui est parfois aussi vu, mais maintenant beaucoup plus rarement, vu la puissance des réactifs de phénotypage D, mais ça peut être